imaginaire ou prospectif.
Donc, pour des raisons indépendantes de ma volonté, des raisons éditoriales de papier traditionnel, j'ai disposé de moins de temps que prévu pour la préparation et je dois par conséquent revoir mon ambition à la baisse. Je me contenterai donc de mener cette réflexion à partir de l'exemple concret du site Artamen que nous avons développé Alexandre Jeffen, moi-même et une troisième collaboratrice, en réservant des considérations plus élargies et approfondies pour la version écrite. Alors, il faut bien sûr que je commence par donner, pour satisfaire très rapidement à une forme de prérequis, quelques brèves indications sur le site en question et sur les circonstances dans lesquelles il a été élaboré, avant de me livrer aux quelques réflexions dont je tiens à vous faire part. Alors, le site Artamen est développé dans le cadre d'un projet soutenu institutionnellement, en l'occurrence par le Fonds national suisse de la recherche scientifique, pour une durée de 4 ans. Et le montant financier attribué permet d'assurer durant cette période le salaire à plein temps des 3 personnes impliquées par le projet, ainsi que les investissements matériels que ce projet requiert. Le projet en est à la fin de sa 3e année, et le développement du site est sur le point d'atteindre, dans les semaines ou dans les jours qui viennent, un état que nous nous sommes fixés comme objectif, et que j'aurai l'occasion de vous décrire assez largement tout à l'heure. Alors, sans entrer immédiatement dans les détails, que trouve-t-on sur le site Artamen ? Alors, le site offre l'intégralité du texte du roman Artamen ou le Grand Cyrus, publié entre 1649 et 1653, et attribué à Madeleine de Scudéry. En fait, le problème auctorial est beaucoup plus complexe. On va y revenir. Alors, juste pour rappel à l'égard de ceux qui ne seraient pas familiers de la littérature française du XVIIe siècle, Madeleine de Scudéry, sœur de Georges de Scudéry, qui est lui-même un auteur des plus importants de son époque, est la grande dame des lettres françaises de l'époque, et son prestige est alors, pour prendre un exemple, bien plus grand que celui de Madame de Lafayette, dont la renommée l'a depuis bien sûr amplement dépassée. Madeleine de Scudéry dirige un salon qui est le lieu de rencontre des principales figures intellectuelles et du monde littéraire de l'époque, de Jean Chapelain à Gilles Ménage. Et elle est l'auteur d'une œuvre diverse et abondante, dont les composantes les plus marquantes sont des romans, au premier rang de ceux-ci, Artamen ou le Grand Cyrus, mais aussi La Clélie, qui suivra immédiatement, et des recueils de conversations qui lui valent, à la fin de sa vie, elle mourra en 1701 à un âge très avancé, une réputation européenne. En gros, entre 1680 et 1720, Madeleine de Scudéry est un des principaux titres de gloire de la culture française vue de l'étranger. Mais en même temps que sa gloire est à son apogée en Europe, elle tombe dans un progressif discrédit en France, et le mouvement est même amorcé dès 1660 en ce qui concerne ses romans. C'est le fameux tournant de 1660 qui est devenu même un lieu commun d'histoire littéraire. Le roman héroïque baroque, auquel ressortissent sur le plan esthétique les œuvres scudériennes, est supplanté en quelques années par la nouvelle, dont La Princesse de Clèves représente bien sûr l'œuvre la plus aboutie. Alors, un des principaux critères de cette rupture est le refus de la part du lectorat d'un certain type de narration impliquant la structure complexe, donc de nombreuses histoires insérées dans la trame principale, attribuées à divers narrateurs, et par conséquent des structures complexes en chassement, et surtout la longueur. En effet, les romans scudériens sont de ce point de vue démesurés, ils s'étendent sur des milliers de pages. Ainsi, le Grand Cyrus, qui comprend dans son édition originale 13 095 pages, 7 443 dans celle que nous avons choisie ici, est le plus long roman de la littérature française, et peut-être, mais ça nous ne sommes pas en mesure de le vérifier, universel. Alors la version que nous en proposons procure le texte de la dernière édition, qui est paru en 1656, tout d'abord dans des possibilités de téléchargement sous forme HTML, PDF, Word, e-book. Mais surtout, le texte est disponible en ligne par un accès direct au travers de la barre de menu de gauche. Qui, comme vous le constatez, respecte la division de l'œuvre en 10 tomes ou parties, comprenant chacune d'entre elles 3 livres. Si par exemple on souhaite s'adresser à la partie 3, livre 2, alors on notera, quand le texte apparaîtra, que ce texte est donné dans sa graphie d'origine. J'attends qu'il apparaisse. Oui, j'ai l'impression que la bande passante n'arrive plus à assumer, parce qu'il y a des gens qui travaillent en ce moment, ou qui sont sur le site internet. Voilà. Ouais. Voilà, donc on constatera que le texte est donné dans sa graphie d'origine. Donc nous avons provisoirement, en tout cas, renoncé à la retranscription dans l'orthographe moderne, en raison de l'effort disproportionné que cela demandait, qui aurait détourné l'engagement de l'équipe d'autres objectifs beaucoup plus importants. De même, la version proposée ici ne présente pas de dimension critique. Nous n'avons pas procédé à un collationnement des variantes d'autres éditions, et nous ne nous sommes pas non plus livrés à un contrôle systématique des résultats de la numérisation. Donc il y a par conséquent un certain nombre de coquilles, situation que nous jugeons peu dommageable, dans la mesure où, en cas de doute, le lecteur peut à tout moment procéder à une vérification sur la reproduction photographique de l'ouvrage qui est disponible en tout temps sur le site. Le temps de chargement est anormalement long là. Oui, ben j'ai un retard sur. Voilà. Donc, le mode image est au moment disponible et on peut en obtenir une version fixe en cliquant dessus, bien sûr, accompagné d'un zoom pour les personnes qui auraient besoin d'une loupe. Voilà. Alors, ce renoncement à la vérification critique, encore une fois, trouve son origine dans un choix économique d'investissement humain. On n'allait pas occuper une personne pendant une année pour procéder à ce contrôle. Mais également dans un choix stratégique de conception scientifique. Nous n'avons pas pour ambition, dans ce projet, de proposer une édition d'un texte ancien sur le modèle de ce qui se pratique pour le livre traditionnel, c'est-à-dire une édition proposant un accompagnement sous la forme d'une présentation et d'un appareil critique, d'un appareil critique constitué de documents et d'une annotation. Alors on sait que ce genre d'éditions sont transférables en ligne, sans modification de leurs principes. D'une part, les documents annexes peuvent être aisément intégrés, mais bien sûr, dans la disponibilité infinie qu'on a en ligne, encore plus aisément et sans limite. Et d'autre part, comme on le sait, les notes peuvent être procurées par le biais des hyperliens. Alors, de tels sites, on le sait aussi, peuvent donner ainsi des résultats de grande envergure. Là, je pense, par exemple, dans le domaine anglophone, au site Dante de Princeton. Alors, il est vrai que ce que je vous ai soumis juste ici possède une base commune évidente avec ce type d'édition que je viens de vous décrire. Le site Artamen constitue aussi un cas de figure de réédition d'un texte ancien sur le principe de la nouvelle mise à disposition d'un texte identifié comme méritant cette faveur. Et personne n'ignore bien sûr que cette pratique est aussi vieille que la philologie. D'autre part, nous n'avons pas, au stade actuel, complètement renoncé à procurer des documents, ce qui n'est pas sans évoquer ici ou là le modèle de l'édition traditionnelle. Ainsi, nous fournissons entre autres, par exemple, des cartes du Moyen-Orient, d'Atlas ancien, contemporain de Madeleine de Scudéry. Ouais, le prochain film. Ou représentant l'état antique. Ouais. Mercator, par exemple. Enfin, nous avons en commun avec ces éditions la possibilité, que nous offrons explicitement par les téléchargements, de transformer le texte en fichier informatique, ce qui favorise son utilisation comme support d'analyse, selon les divers modes possibles de ce qu'on appelle en anglais un literary computing, c'est-à-dire analyse littéraire assistée par informatique. En fait, dans ce que j'ai montré jusqu'ici, ce qui rendrait le projet remarquable parmi les nombreux projets d'édition en ligne qui ont vu le jour depuis quelques années, dans des contextes souvent liés à des soutiens institutionnels qui ont été assez enclins à financer ce type de réalisation, c'est l'immensité du texte mis à disposition. Il s'agit selon toute vraisemblance du plus grand texte littéraire lisible en ligne, et la seule implémentation de ce texte et sa seule gestion également a nécessité de la part d'Alexandre Geffen des exploits sur le plan technique qui ont encore été augmentés par la mise en place des diverses fonctions qu'on passera en revue tout à l'heure. Donc j'en profite au passage pour souligner que les choix techniques sont totalement ceux d'Alexandre Geffen et outrepassent totalement mes compétences de 17e traditionnel. Donc ceux d'entre vous qui aimeraient des précisions en la matière sont priés de s'adresser directement à lui, soit cet après-midi, soit plus tard dans le cadre du colloque. Donc si nous ne nous orientons pas dans la direction de l'édition traditionnelle, transférée sur le support électronique en ligne, que cherchons-nous à atteindre avec le site Artamen, au-delà de la mise à disposition facilitée du texte du Grand Cyrus ? Alors l'idée sur laquelle repose le projet est de permettre à un texte prétérité par le support du codex imprimé de trouver des conditions de lecture améliorées au travers de la migration sur le nouveau support en ligne. Autrement dit, si cet objectif était atteint, on aurait ainsi un cas de figure dans lequel le transfert sur Internet d'un texte préexistant sous forme imprimée constituerait un authentique bénéfice pour ce texte, au sens où il lui procurerait, en le délivrant de certaines contraintes liées à l'imprimé, une seconde vie. Et c'est pour cela que j'ai utilisé le terme de réviviscence, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Donc on répondrait ainsi aux reproches que j'ai souvent entendus à l'égard des éditions électroniques, de textes canoniques ou patrimoniaux, d'être en quelque sorte superfétatoires, secondaires, tentant vainement de se substituer aux versions imprimées auxquelles elles n'apportent rien de plus sous l'angle des conditions de lecture. Tout au plus apporte-t-elle un progrès au niveau des moyens fournis d'analyse. Alors ces quelques déclarations nécessitent maintenant, bien sûr, une explication. Je vais commencer par deux observations, et la seconde me permettra d'enchaîner sur la suite de mon propos. Alors, la première observation consiste simplement à souligner le fait que l'orientation choisie pour le projet est celle d'une exploration dans le domaine de la lecture en ligne. Si nous proposons un texte tel que le Grand Cyrus, c'est en premier lieu pour le donner à lire sur écran plutôt que pour le donner à lire sur papier après téléchargement ou pour en faire un objet d'analyse assisté par informatique, même si on a vu que cette utilisation en demeure possible. Alors peut-être, du reste, cet objectif est-il utopique. C'est l'expérience qui va nous le révéler. La deuxième observation concerne la définition des textes pouvant trouver bénéfice de ce transfert. J'ai parlé de textes prétérités par le codex imprimé. Pourquoi, au nom de quoi, un texte conçu pour un certain type de support pourrait-il être rendu plus lisible une fois transféré sur un autre type de support ? Comment est-il possible qu'il y ait un meilleur support que celui pour lequel ce texte a été conçu ? Alors je crois que ceci se conçoit si on prend en compte les fonctions qui ont pu être attribuées à l'imprimé durant son histoire. Alors la publication de l'imprimé, par l'imprimé, a certes représenté un moyen optimal de diffusion des textes, mais en corollaire, elle a également fourni une possibilité de conservation de ceux-ci dans la longue durée. En entendant par la durabilité du support, il s'agit toujours de papier, qui est un support infiniment plus fragile que la pierre, mais par la diffusion beaucoup plus étendue que permet la fabrication mécanique d'un grand nombre d'exemplaires, qui assure, par ce nombre même, une plus grande probabilité de conservation du texte. Alors, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que cette fonction de conservation a exercé une véritable fascination à certaines périodes. C'est le cas en particulier dans la seconde moitié du XVIIe siècle, une époque qui est suffisamment à distance des débuts de l'imprimerie pour s'apercevoir que l'imprimé garantit véritablement un passage à la postérité. Une époque donc qui sera obsédée par la possibilité de survie de l'œuvre qui est désormais offerte, d'autant plus qu'une grande partie de la création se fait alors sous forme orale et manuscrite. Donc on aura tendance ainsi, à cette époque, à imprimer certains textes, non seulement pour leur conférer une grande diffusion, mais encore pour leur assurer un passage à la postérité. Et c'est ce souci, par exemple, qui justifie en grande partie la publication des pièces de théâtre, ou celles de textes inachevés au XVIIe siècle, comme les Pensées de Pascal, par exemple, ou de textes ayant été diffusés à leur époque sous forme manuscrite. L'essentiel de la création produite dans les salons circule sous cette forme-là, et on est fort embarrassé à l'époque par ce caractère périssable. C'est pour cela qu'on prendra l'initiative, par exemple, de faire imprimer, après leur mort, les œuvres de Vincent Voiture ou celles de Sarrazin pour éviter leur disparition. Donc il faut bien noter que les œuvres évoquées jusqu'ici sont presque toutes destinées à la profération orale. C'est donc que pour elles, l'écrit n'est qu'une forme de notation, un statut transitoire destiné à la conservation provisoire, avant le passage à l'actio, pour prendre une catégorie rhétorique, avant la mise en œuvre, si on veut. Donc le texte est d'abord un texte oral, qu'on écrit pour en assurer la mémoria immédiate, puis qu'on a imprimé pour en assurer la conservation durable. Et dans tous les cas, dans tous ces cas-là, l'imprimé, le mode sous lequel nous sont parvenus ces textes, ne représente donc qu'un pis-aller, une forme secondaire, une forme, j'aventure cette image, d'embaumement qui permettra au texte de traverser les siècles. Alors c'est inévitablement, comme on l'a dit avant, le cas de la création théâtrale, et on sait bien sûr encore à notre époque ce que le texte de théâtre perd lorsqu'il est confiné à l'imprimé. Il faut ici rappeler la formule d'un contemporain, Molière en l'occurrence, je me conseille de lire les comédies qu'aux personnes qui ont les yeux pour découvrir dans la lecture tout le jeu du théâtre, donc tout ce que le texte perd sinon. Mais c'est aussi le cas de la création poétique du XVIIe siècle, destinée à l'oral, et c'est le cas, sans doute aussi, des romans baroques, héroïques, tels que ceux de Madeleine de Scudéry. En effet, l'immensité de ces textes, leur complexité structurelle, le grand nombre d'histoires qu'ils contiennent, donc tout ce qui fait leur singularité peut s'expliquer d'abord par leur mode de consommation privilégié, qui est la lecture à haute voix. Les romans sont d'abord destinés à être lus devant un public, être lus dans les salons, devant un public de connaisseurs et d'initiés aux circonstances de leur composition, public de la part duquel on attend des commentaires et auquel il est accordé un droit de participation à la création. Dès lors, c'est pour cette procédure d'échange participatif que le texte du roman est conçu. Et dès lors, la forme imprimée, qui intervient de manière secondaire pour la diffusion de l'œuvre et pour sa conservation, ne satisfait plus à ses conditions originales. Les romans baroques sont donc des textes qui sont en quelque sorte à l'étroit dans l'imprimé. Donc la version sous forme de livre présente à leur égard, je dirais, le même caractère secondaire et imparfait que Mutatis Mutandis, l'enregistrement filmé d'un spectacle à l'égard de ce spectacle. Donc ce qui explique leur réputation d'illisibilité. En effet, si on aborde un de ces romans selon le principe de la lecture intime et qu'on s'efforce de lire les milliers de pages dans l'ordre, on est facilement rebuté, comme l'ont été les nombreux critiques qui s'y sont essayés. Seuls des contemporains motivés, ne disposant d'aucune bonne âme pour leur faire la lecture et désireux de connaître ce qu'on lisait dans le salon phare de Paris, pratiquaient cette lecture en solitaire. Donc on voit comment, dans ce cas particulier, à tout le moins, on peut considérer que le texte est en fait prétérité par le support original et sous lequel il nous est parvenu. L'imprimé, qui, à nous lecteurs du XXIe siècle, nous invite spontanément à la lecture intime. Et cet imprimé donc n'a été que le mode de passage à la postérité, hein, un peu comme dans le cas d'une pièce de Racine. Donc il ne rend pas justice au texte dans sa dimension d'œuvre destinée à la lecture sociale, consommée de manière interactive et pouvant être abordée de multiples lieux différents, donc de multiples lieux textuels. Et c'est là que le transfert, sur un nouveau support peut trouver sa raison d'être et sa légitimité en procurant des conditions de lecture plus proches que les conditions originales. Conditions qu'on ne peut que difficilement reproduire, on ne va pas recréer le système de consommation du salon mondain. Donc de ce point de vue-là, il s'agirait d'une forme de réviviscence. Le texte, prisonnier de l'état imprimé, desservi par cette forme qui lui a été attribuée par le passage à la postérité, pourrait en être libéré et retrouver une nouvelle existence par des conditions de lecture qui se rapprochent de ces conditions originales. Alors j'en reviens maintenant au site Artamène pour examiner comment ce site maintenant pourrait éventuellement répondre à cette exigence. Le premier point, et qui constituerait un avantage par rapport à la version imprimée sous laquelle nous est parvenu le grand Cyrus, c'est celui du mode d'accès différencié à l'œuvre qu'offre le site. Alors, le grand Cyrus est un roman qui contient, comme on l'a dit, un grand nombre d'histoires, tantôt autonomes, tantôt en interaction entre elles. Les 10 tomes imprimés dont nous disposons invitent, conformément à nos usages, à une lecture intime et linéaire de l'œuvre, à une expérience réputée rédhibitoire, si l'on en croit les critiques qui l'ont entreprise. De plus, la version imprimée, qui est d'ailleurs disponible sous forme d'une réimpression anastatique, donne un accès linéaire à ce matériau narratif. Et la parution a d'ailleurs été originellement échelonnée, ce qui fait qu'on accède aux histoires les unes après les autres. Toutefois, la lecture de nombre de ces histoires implique des retours en arrière pour rafraîchissement. Le texte y invite d'ailleurs explicitement, mais n'en fournit pas les moyens. Ou des parallèles avec d'autres histoires qui présentent les mêmes personnages ou souvent les mêmes thèmes. Il y a une forme de récurrence systématique. Donc des opérations qui sont très laborieuses pour le lecteur qui procède par le biais de la lecture intime et linéaire. La maîtrise du système, si on veut, le contraindrait, pour que le fonctionnement soit optimal, à prendre des notes, à dresser des répertoires pour entretenir cette mémoire. En revanche, dans la situation originelle de lecture sociale, le savoir commun est partagé du groupe, pourvoit à l'information nécessaire et facilite la maîtrise générale et surtout le rebond d'histoire en histoire. Alors la lecture intime, qui nous prive de ces circonstances d'appréhension du texte, est en revanche peu encline à prendre le roman par une de ces histoires. Donc le roman est en quelque sorte prisonnier de sa linéarité. Alors le site, en revanche, offre la possibilité d'une approche plus conforme à ses conditions originales. En premier lieu, en permettant, comme on l'a vu, d'aborder très facilement le texte par n'importe laquelle de ses parties, au travers de la barre de menu de gauche. Donc la linéarité ne s'impose plus du tout a priori. Mais surtout, la possibilité est offerte d'entrer dans le texte en choisissant un point d'intérêt particulier. Alors, on peut le faire tout d'abord grâce au moteur de recherche par terme. Ce moteur de recherche qui était développé par Alexandre Jeffon en collaboration avec l'Artful American Research of the Treasury of French Language de Chicago. Donc il s'agit en fait d'une version de Philologic qui est adaptée au cadre de ce site. Alors, il existe également un moteur de recherche par page, mais qui n'a pas grande pertinence pour ce qui nous intéresse maintenant. Et ce moteur de recherche donc par terme, comme il se doit, offre la possibilité de retrouver toutes les occurrences du nom d'un personnage ou d'un thème ou d'une idée par le biais du terme qui est associé. Alors admettons que nous soyons intéressés par le motif de la confidence, l'exemple imaginaire que j'ai pris bien sûr, dans le grand Cyrus, on entrera dans la cartouche le terme confidence. Ah oui, c'est que je ne connais pas complètement ce type de clavier. malgré qu'il soit plus proche de mes usages que le clavier français, le recul. Alors, confidence, tu tapes confidence, point, étoile. Donc, ce terme, le choix de ce terme donnera accès à toutes les occurrences du terme, singulier et pluriel, parce que le moteur de recherche est muni de caractères joker, qui sont fort communs dans l'occurrence, en raison de la variation graphique qui est propre à la langue de l'époque. Tu peux envoyer là, on va lancer la recherche. Et surtout, la liste des occurrences qui va apparaître à ce moment-là, va présenter un avantage particulier dans la mesure où elle permet de retourner directement dans le texte même du roman au lieu textuel précis. Parce qu'on aura affiché d'abord le... Ah, c'est une manipulation. Une page de publicité.
Ouais.
Pour occuper.
Ouais, c'est le serveur d'Artanum qui est un peu le...
Non, non, tout à l'heure, c'est ton accès était extrêmement rapide tout à l'heure.
C'est la sieste.
C'est curieux. Je vais me raconter ce qu'elle figure en principe, c'est la fable de demi-seconde. Oh. Comment ça s'explique?
Est-ce qu'il y a d'autres machines sur le vaisseau?
J'imagine, ouais. Voilà. Donc, qui nous permet de retourner immédiatement à l'endroit de l'occurrence en question et de reprendre la lecture à partir de l'endroit précis sélectionné qui nous intéresse. Et une démarche similaire peut être entreprise également à partir des illustrations originales du roman. En effet, dans l'édition originale, chaque livre, donc il y a 3 livres par tome ou partie, et 10 parties au total, comme je l'ai dit tout à l'heure, est ornée d'une gravure figurant une scène de l'histoire qui contient. Alors ces gravures qui représentent, on va y accéder directement à ces illustrations, ces gravures qui représentent des moments forts, figure dans cette édition originale à l'orée du livre et non à l'endroit précis du texte narrant la scène en question. Alors nous avons reproduit ces gravures et nous avons identifié dans le texte la scène précise représentée et nous avons procuré le lien qui, à partir de l'histoire en question, permet de retomber dans le texte. Alors, en l'occurrence... Voilà. Et à partir de là, afficher cette page dans son contexte, ce qui permet de retomber dans le texte, de reprendre, d'entamer la lecture à partir du passage qui concerne cette gravure. Donc on peut ainsi aborder la lecture du texte sur le critère aléatoire de l'attrait d'une illustration. Alors, ironie de l'évolution des supports, cet accès particulier n'était pas possible pour les contemporains, puisque les illustrations n'étaient pas disponible, bien sûr, enfin n'était disponible que dans la version imprimée de l'ouvrage, et dans ce cas-là, seule la perspicacité du lecteur privé pouvait lui permettre de retrouver le lieu textuel désigné. Alors ce que je vous présente jusqu'ici pourrait toutefois susciter le scepticisme. À quoi bon pénétrer au sein d'un texte linéaire, donc en tout cas dans la version dont nous disposons, non par le début, mais par n'importe quel lieu textuel, si on va se trouver plongé au milieu d'une narration, dans un univers inconnu, pour lequel nous ne disposons d'aucun repère. Alors c'est pour pallier cette limitation, et pour faciliter l'accès au texte par n'importe quel endroit, que nous sommes en train d'élaborer un dispositif de repérage qui consiste principalement en 2 éléments. Et je me dirige maintenant vers le tome 10, qui en est équipé. Thank you. reste en cours d'implémentation et sera disponible d'ici le début octobre. Alors, le premier élément consiste, comme on va le voir apparaître, suspense.
Non, mais la bande passante est très chaotique, là, je m'aperçois.
D'accord, ouais, c'est ce qu'il y a. New mail pour.
Non, parce que je ne prends pas
beaucoup. Voilà, ben, on est contraint de faire une. On va introduire la pause maintenant, peut-être.
Tu peux décrire ce qu'il y a. Voilà, alors, être sur l'écran.
Oui, voilà, mais je me réjouissais de le faire par la démonstration directe. Voilà. Il s'agit de résumés dépliables à double niveau. Alors, je fais la démonstration, maintenant de ce dispositif, qui, à notre connaissance, est inédit sur un site littéraire. Et donc, dès le début octobre, tout le texte du roman se présentera systématiquement sur cet aspect. En demandant, alors, une des parties, on tombe sur ce premier niveau de résumé-là, qui, par un clic, donne accès à un second niveau de résumé. Lequel, par un clic, donne accès au texte, sous le résumé. Donc, ces résumés sont, comme vous le constatez, structurés en sous-parties, et permettent facilement de comprendre les enjeux de la narration où se trouve le passage. Et il va de soi, bien sûr, qu'ils sont accessibles également à partir de moteurs de recherche. Mais encore une fois, on pourrait considérer que les difficultés d'accès au texte ne sont pas pour autant résolues. En effet, confronté à l'abondance de personnages qui va surgir inévitablement à la lecture de ce résumé, puisque le grand Cyrus, dans son intégralité, comprend plusieurs centaines de ces personnages, au nom souvent voisin et consonant. Je donne un exemple ainsi. On a par exemple Arisbé, Aristaspe, Aristé, Ariston, Aristonis, et ainsi de suite. Alors c'est là qu'intervient le second élément du dispositif, des fiches de personnages qui peuvent être activées à la demande. Et qui devraient. Elles sont activées pour l'histoire de Sappho, je peux demander un peu plus loin. Le sens de l'histoire de Sappho. Voilà. Alors, le cas de Sappho n'est pas très représentatif, mais admettons que je m'intéresse à ce passage-là, et que je sois confronté à ce personnage de Pharaon dont j'ignore tout. Voilà. Une fiche de personnage apparaît ainsi en bulle, une fiche qui contient, qui procure quelques informations immédiates sur le personnage en question, destiné au repérage. Donc ces fiches sont disponibles à la fois sous forme de bulles, mais également par un clic, elles donnent accès à une version dans laquelle elles sont reliées entre elles par lien hypertextuel. Donc voilà, Pharaon, j'ai appris rapidement de qui il s'agit. Maintenant, je vais en savoir un peu plus. On me dira que Pharaon, est ami de Démocède. Tiens, qui est Démocède? Démocède, c'est l'ami particulier de Sappho, frère de Sidon. Après tout, je ne me souviens plus qui est Sidon. Et ainsi de suite, je peux remonter dans tout le système hypertextuel et mettre en rapport autant de fiches que je juge nécessaires pour l'identification du personnage. Donc en fait, ces fiches sont intégrées à ce que nous appelons l'encyclopédie, sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Donc par le biais de ces résumés et de ces fiches, on constate comment l'accès par n'importe quel lieu textuel du roman est possible. Ce qui est évidemment facilité par les structures que j'ai exposées juste ici. Donc on peut entrer dans le grand Cyrus sans être contraint d'employer la voie linéaire. Et de ce point de vue-là, la version en ligne se distingue du codex imprimé en offrant des possibilités que seul offrait le mode originel de consommation. Cette forme d'échantillonnage dans l'accès au texte que je vous ai présenté, était parfaitement adapté à la lecture sociale à haute voix, et le principe interactif de celle-ci invitait au rebond d'un passage à un autre au gré de ce qu'évoquait le texte. Donc, dans ce cas de la lecture dans le mode originel, préexistant à l'imprimé, le repérage textuel ne posait pas problème en raison de la présence de nombreux connaisseurs du texte dans la salle au moment de la séance de lecture. Alors on peut tout de même s'interroger, arrivé à ce stade, sur le profil des utilisateurs du site. Quel type de lecteurs peuvent être intéressés à lire un texte du XVIIe siècle dans sa graphie d'origine sur un site qui invite à aborder ce texte d'une manière qui défie les usages? Alors si on se réfère ne serait-ce qu'aux pratiques de l'imprimé, on sait que rares sont les lecteurs d'œuvres du XVIIe siècle français qui vont les aborder dans les éditions originales. C'est un comportement en principe restreint aux chercheurs. Normalement, ces textes se lisent dans une édition souvent critique, en tout cas présentée, commentée, complétée de documents et surtout accompagnée de notes destinées à la compréhension des détails de l'œuvre, qui est généralement hasardeuse pour le non-spécialiste. Alors, dans la mesure où nous ne procurons pas, où nous ne proposions pas une édition critique, mais plutôt un instrument de facilitation de la lecture, nous avons choisi de ne pas reproduire ce procédé. Nous avons néanmoins ressenti le besoin de procurer une forme d'accompagnement. Pour cette raison, nous avons mis au point une encyclopédie sur mode hypertextuel que nous avons intitulée « Le monde d'Artamène », à laquelle je vous donne accès immédiatement. Et il s'agira surtout, puisqu'il est en bonne partie en cours de constitution, d'articles de divers contributeurs qui apportent un commentaire sur le texte, mais dont le principe de fonctionnement est d'ordre hypertextuel. Des séries de fiches distinctes qui peuvent être reliées entre elles par plusieurs liens possibles et qui permettent ainsi toutes sortes de parcours de circulation. Alors, on voit ici apparaître par exemple un article de moi-même et de ma collaboratrice. Si on entre dans l'article de ma collaboratrice, on voit ici la liste des diverses fiches. Et on constate, par exemple, à la vue de l'une d'entre elles, prenons la première, comment ces fiches, sur le modèle qu'on a vu tout à l'heure pour les personnages, sont reliées entre elles par des liens hypertextuels. Mais, outre ce mode de composition hypertextuel de cette encyclopédie, ces articles, enfin, plutôt par le fait du mode de composition hypertextuel, ces articles peuvent être eux-mêmes en interaction entre eux. Si je prends, par exemple, la fiche, parce que je sais que ça marche... Non, ça s'applique dans cette première fiche, je crois. Si je vois ici la notion raison et passion, par exemple, on constatera que la fiche sur laquelle on aboutit est une fiche qui n'est plus dans le réseau de l'article de ma collaboratrice, mais dans un réseau d'articles, enfin dans l'autre article qui existe pour le moment, qui est celui de moi-même. Donc on a une possibilité de passage, pour autant que les créateurs de l'encyclopédie Les Ménages, d'articles individuels, enfin de frontières, de passage du système de fiches de l'un à l'autre. Mais l'interaction est également possible avec le texte lui-même. La fiche en question, par exemple, prenons un exemple, je trouve un exemple, donne l'accès, on va reprendre peut-être la fiche précédente, cette fiche donne accès au passage textuel. Ah non, c'est pas celle-ci. Voilà, on va en parler ici, on peut directement retomber de nouveau, une fois de plus, dans le texte du roman lui-même. Donc au total, une fois atteint son plein développement, l'encyclopédie devrait constituer une forme de glosse du texte, ouvrant divers horizons et appelant divers types de commentaires, mais ne se restreignant pas à l'intervention locale du type note de bas de page ou à l'intervention générale du type introduction, suivant le modèle qu'on trouve dans les éditions critiques normales. Donc on proposera ainsi au lecteur un parcours prenant appui sur le texte et permettant d'y retourner plutôt que de le citer, un parcours qui permet de naviguer au sein d'une série de considérations que le lecteur peut poursuivre ou interrompre à sa guise. Alors, de la même manière, pour reprendre l'analogie avec la situation de lecture sociale, de la même manière qu'une conversation qui prend son point de départ sur un lieu du texte et qui, déviant progressivement de ce point de départ, aborde divers sujets avant de retomber sur ce texte. Donc de cette façon, l'usager du site se voit donc offrir la possibilité de se faire accompagner dans le texte. Et en même temps, se crée, autour de ce texte, un espace d'échange critique dont la nature précise et le fonctionnement devront être à l'avenir plus précisément déterminés. Pour le moment, les contributeurs recrutés qui sont en train de préparer leur article l'ont été sur des critères de spécialisation dans le domaine et ils accèdent à l'encyclopédie par un accès que nous leur avons accordé. Alors, y aura-t-il lieu dans la suite de faire participer d'autres chercheurs désireux de contribuer, de lancer des appels à contribution, d'ouvrir l'encyclopédie à une véritable forme interactive, plus ou moins analogue au chat? Nous sommes en pleine période d'expérimentation et d'exploration, et donc les options prises à l'avenir dépendront du comportement et des attentes exprimées des usagers. Mais enfin, pour attirer sur le site, de manière plus ferme et soutenue, un public autre que celui des chercheurs dix-septiémistes, nous avons entrepris de publier, sous forme imprimée, auprès d'un éditeur de livres de poche de grande diffusion, Flammarion en l'occurrence, et sa collection JF, un volume papier d'extraits du roman coordonné avec le site. Ce volume la parution de ce volume est agendée au 10 octobre. Vous avez ici la couverture du volume en question. Donc il s'agira ici d'une anthologie d'un genre tout à fait particulier et inédit à notre connaissance, une œuvre littéraire proposée en extrait, et on sait que c'est l'usage dans ce type de collection de poche pour les œuvres dépassant une certaine dimension. On pense aux Mémoires de Saint-Simon, aux Lettres de Madame de Sévigné, à la Correspondance de Voltaire, mais avec la différence cette fois que l'intégralité de l'œuvre devient disponible à portée d'accès informatique dans un arrière-plan aisément accessible et non plus dans une bibliothèque lointaine. Et de surcroît, cette existence et cette proximité du site nous ont permis de proposer, au sein des notices et de la notation du livre, de nombreux renvois à d'autres passages de l'œuvre en les désignant par le système de référence du site. Autrement dit, livre et site sont totalement complémentaires. Le second tiendra lieu de prolongement au premier, lequel servira d'échantillon et d'appât à l'égard du premier. Là aussi, la réaction des lecteurs, qui devrait être assez ample en raison de l'impact de l'édition de poche, nous amènera peut-être à repenser certains aspects du site. Donc, il n'en reste pas moins que le Grand Cyrus, qui n'a fait l'objet d'aucune réédition depuis le XVIIe siècle, va rencontrer ainsi un nouveau lectorat. Il y a donc aussi, et là je joue un peu sur les mots, une forme de réviviscence. Mais non pas selon le concept que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée de donner une nouvelle vie à un texte qui a été figé à son détriment dans l'imprimé, en lui procurant, dans une nouvelle vie, en lui procurant de nouvelles conditions de lecture par le biais de la migration sur le support informatique en ligne. Donc je parlerai dans ce cas-là plutôt de restauration. Mais pour ce qui concerne l'édition de poche coordonnée avec le site, c'est dans l'idée d'une restitution. On redonne ainsi un accès ouvert à un plus large public à un texte que ses dimensions exceptionnelles avaient fait disparaître des bibliothèques privées, malgré ses qualités et son importance extrême. Et cette disparition était due à des raisons avant tout économiques, d'économie de l'imprimé. Donc, or, c'est l'existence de ce site qui a fourni, un peu paradoxalement, l'argument pour la publication du volume imprimé. Donc c'est donc là aussi le site qui est à l'origine du processus de réviviscence. Mais je vous accorde bien sûr que ce second sens de réviviscence, donc celui de restitution, faciliter l'accès et en conséquence l'intérêt pour un texte du passé négligé, correspond à une expérience plus traditionnelle, puisque l'édition imprimée y a déjà très fréquemment contribué. Voilà, j'en ai terminé.
Combien de temps a pris l'ensemble du projet et en combien de phases?
Là, comme je vous dis tout à l'heure, c'est la fin de la troisième année.
Ouais,
c'est ça. Ouais. Quant aux phases distinctes, il faut distinguer. On a commencé par l'implémentation du texte lui-même, puis après on y a ajouté des fonctions. Donc on est en fin de cette dernière phase, si on veut. Et après, la suite, pour la dernière année restante, on va encore ajouter sans doute une ou deux fonctions inédites. Mais ça dépendra beaucoup aussi de la réaction du marché éditorial, de la politique même éditoriale de Flammarion à l'égard de ceci, pour savoir ce qu'on va développer.
Et dès le début, institutionnellement, c'est un projet que tu as présenté à l'université avec un cahier des charges.
Voilà. Même si la version originale du projet diffère assez considérablement de ce que ça devient finalement. Donc, par exemple, la question des résumés, des fiches de personnages n'avait pas été imaginée au début, simplement parce que d'abord, je ne savais pas que la possibilité technique existait. D'autre part, je n'avais pas bien perçu les problèmes de lecture à l'écran, enfin de lecture générale que posait l'abondance de personnages, la difficulté d'orientation dans le texte, et ainsi de suite.
Ma deuxième question, c'est pour vous deux. Qu'est-ce que vous avez comme retour d'usagers ou statistiques de consultation ou...
Alors, la fréquentation du site tourne autour de 2000 pages consultées, enfin de 2000 accès demandés par mois. Quant à des retours de particuliers, on en a assez peu. On en a, et ils proviennent essentiellement de contacts personnels. C'est-à-dire que nous avons une possibilité d'accès par le biais de la fonction contact, bien sûr, cette page-là, qui figure sur la barre de menu supérieur ici. Hein. Je crois qu'on a peut-être reçu en 3 ans un ou deux messages.
Non, mais pour dire aussi autrement, le site est très connu dans la communauté du 17e-iste.
Oui, je veux.
Touche pas forcément beaucoup de visiteurs en dehors de cette communauté-là. Parce que le texte reste difficile, malgré l'équipement, la facilitation des
questions. Et là, les présentations que vous avez montrées me permettent d'imaginer des adaptations pédagogiques auprès d'étudiants non spécialistes, vaguement 17e. Donc là, on arrive à des possibilités.
On n'a pas eu le temps de le montrer, mais à partir de l'encyclopédie, on a le parcours de lecture, notamment, qui est en train d'être mis en place.
Effectivement, pour répondre juste encore à la question là, la dimension pédagogique d'utilisation dans l'enseignement n'a pas été prise en compte pour le moment. Donc, on a.
Ça
pourrait être une étape ultérieure, hein, mais ça ne fait pas partie du projet original et on n'a pas eu le temps de se la poser explicitement. Dans quel sens? Oui, donc il est clair que Madeleine de Scudéry est un des auteurs phares et privilégiés des gender studies. Hein. Et la renommée actuelle de Madeleine de Scudéry, c'est en grande partie en partant des États-Unis. Hein. Donc on sait que le site est consulté parce qu'en plus le site est bien sûr référencié sur des sites de littérature féministe et autres, et il est consulté aux États-Unis pour tous ces biens-là, mais on n'a pas de feedback particulier, et je vois pas en quoi ces personnes se seraient manifestées crime de lèse-majesté, ou je sais pas. Ah oui, non, d'accord, non. Mais il est clair qu'il n'y a absolument aucune option dans le sens des gender studies qui a été choisie pour pour la conception du site, voire même pour la constitution de l'encyclopédie, sans mise à l'écart pour autant. Hein. Bah, vous avez vu qu'un des articles là est sur la représentation du féminin, entre autres, de l'encyclopédie. Donc c'est... Mais. Oui.
J'ai une question un peu plus technique. Je n'ai pas tellement bien compris comment vous avez réussi à lier les images au texte.
Alex, tu peux répondre peut-être.
En fait, il y a une série de Statex. Enfin, il y a un point important que je n'ai pas eu le temps de noter. Statex a été une brise d'un format, c'était le format TEI, oui. Qui est un format XML, qui est celui qui est utilisé pour la majorité des grosses entreprises de numérisation texte littéraire et qui garantit la pérennité et la transparence des standards d'encodage. Donc ça, c'est le point de base.
Et
si tu veux, ça c'est important. À comprendre parce que ce qu'on voit, le site n'est qu'une version possible finalement de la manière dont on peut traiter le texte. Et le dispositif de traitement et de lecture n'est pas absolument lié, est à séparer de la numérisation qui a été faite elle-même. On a séparé le contenu de sa présentation, ce que permet l'utilisation d'un format comme celui-ci. Donc on peut tout à fait imaginer que notre équipe, et c'est déjà le cas parce qu'Artful a récupéré, si tu veux, le format texte XML-TEI, l'exploite différemment. Bon, et nous, l'exploitation qu'on a voulu faire, on peut faire tout ce qu'on veut, hein, on peut faire la correction de l'orthographe ancienne à l'intérieur du texte EI pour avoir une version alternative. Nous avons voulu essayer de juxtaposer des images, les images originelles qui ont été numérisées et qui sont sur le serveur, avec le texte tel que numérisé pour permettre la confrontation et la correction. Donc, c'est simplement un petit système en HTML, en JavaScript qui t'affiche
comme d'habitude
sur le côté l'image au moment où tu vois la page parce qu'il y a des points.
Ouais, c'est précisé.
L'autre point important à noter, c'est que là, vous l'avez vu sous Mozilla, c'est quelque chose qui est pensé pour tout système, donc il n'y a absolument rien qui soit propriétaire. C'est du serveur Linux, ça se lit aussi bien sur un Mac qu'un n'importe quel PC Windows. Donc bon, ce type de dispositif a été pensé pour être le plus universel possible. Pardon.
D'accord, merci.
Alors, je vais poser une question que je me pose de plus en plus. Par ailleurs, je vais essayer de la développer lors de mon intervention le 17. Et on s'aperçoit là dans votre projet, ainsi que dans le nôtre aussi, une obstination à tout rappeler, à s'oublier de tout. Et je pose la question, et les stratégies de l'oubli? Barthes, lorsqu'il parlait du plaisir du texte, il disait le plaisir de relire Proust, c'est qu'à chaque relecture, on ne saute jamais la même ligne. Alors, quelles sont les stratégies de l'oubli? On connaît
là, je crois que
plus ou moins les stratégies pour l'oral aussi, pour l'imprimer.
La réponse, elle est extrêmement simple. C'est que on donne dans l'édition papier, l'anthologie papier qui paraît le 10 octobre, on donne un 20e du texte. Donc, 95% est oublié depuis.
Je pense que c'est pas simple, parce que je pense à la manière dont on utilise les outils numériques. Les procès de programmation, de mise en page, d'utilisation, c'est-à-dire, je me pose de plus en plus la question, comment est-ce qu'on va oublier dans le numérique? C'est sûr que c'est différent des stratégies qu'on utilisait pour oublier dans l'imprimé, dans l'oral, etc.
Je réponds peut-être indirectement en vous disant que moi, si je suis sur un projet de ce type-là aussi, c'est aussi par fantasme d'accumulation. Et donc, je viens en grande partie de l'édition critique, je m'occupe à côté de ça de la Pléiade de Molière, nouvelle version, et donc je suis extrêmement avide de recueillir et de bétonner le plus possible l'information que je trouve. Donc je vais exactement dans un sens opposé à celui que vous suggérez, une forme de fantasme absolu de philologue. Ah oui, ça je le reconnais absolument, hein, tout à fait.
Je pose la question parce que bon, la technologie nous rapporte un mythe de la puissance. La technologie, elle peut tout faire, elle peut tout rappeler, etc.
Ouais, et quand je dis fantasme, ouais, je suis bien conscient de la dimension parfaitement dérisoire ou aléatoire de la chose.
Je crois qu'il faut apporter aussi à ce mythe de la technologie notre perspective de l'être, c'est-à-dire il faut aussi apprendre la technologie à oublier.
Ouais, moi j'ai une perspective de philologue, en l'occurrence. Gaston Barry.
Oui, je voudrais de mon côté d'abord vous dire la grande satisfaction que j'ai eue à entendre des propos médiologiques sur. Parce qu'on a toujours tendance à considérer que l'œuvre imprimée, et même souvent l'œuvre originale, est la meilleure présentation possible et qu'on ne peut qu'y revenir. Alors que vous avez bien montré qu'au fond, on donne peut-être un support plus adapté. Avec une édition de ce genre-là que l'édition d'origine qui au fond est une édition assez ancienne donc qui a toutes sortes de contraintes techniques que nous n'avons plus aujourd'hui. On se demande d'ailleurs si l'étape ultime ce serait pas de mettre en ligne un enregistrement sonore fait par de bons comédiens.
Exactement, voilà. Exactement.
Du texte qui permettrait de restituer cette atmosphère salon.
Exactement, la seule restriction, oui, exactement, la seule restriction possible, ce serait le coût de production énorme.
Ma question, ma question est surtout une question de l'utilisateur, et ça n'infirme pas cette entreprise-là, mais en tant qu'utilisateur, j'ai affaire actuellement, et on en a vu déjà dans les premières communications, plusieurs exemples, d'un assez grand nombre d'éditions, et chaque dispositif est différent pour chacun des textes. C'est-à-dire que ce à quoi on assiste actuellement, c'est que pour chaque texte, on met au point une interface différente. Mm-hmm. Alors, on a vu ce matin que Gallica a proposé des éditions en mode image seule, avec un peu de table des matières à gauche. On a vu l'exemple du Bert Falaise qui propose donc l'édition de l'Autréamont en hypertexte complet. On a vu Europe qui a encore un autre mode d'édition. Maintenant, on vient de voir Artamen. Donc, en tant qu'utilisateur, je suis un peu ennuyé, disons, par toutes ces interfaces, puisque d'abord, il faut que je les apprenne chaque fois. Il faut que j'apprenne à me servir. Et puis surtout, comme utilisateur, moi, souvent, je ne sais pas que je vais trouver quelque chose qui m'intéresse dans Artamen ou dans Europe. C'est-à-dire, je voudrais pouvoir interroger toutes les bases de données textuelles actuelles et dire, je cherche tel mot. Par exemple, est-ce que Google va indexer
Sur Google Index, avec cette limite que tu connais peut-être, c'est que Google n'indexe pas des pages trop longues, c'est-à-dire qu'il n'indexe que combien les 5000 premières pages. Donc, il y a cette limite-là. Pour ce qui est de la neutralité par rapport à l'interface et l'ergonomie, je crois qu'elle est simplement assurée par le XML, par exemple. Il y a une version Artful dans la grande base de données Artful qui est c'est marche avec grand texte en France, qui permet d'utiliser le texte à partir intégralement d'Artful. Et d'autre part, on a des versions qui sont pré-opérationnelles à partir des moteurs de recherche autour de Zara, qui sont des moteurs développés par Oxford. Alors comment ce type de multi-utilisation est possible? Il est simplement possible par un utilisateur d'un standard qui sépare le texte de son contenu. C'est-à-dire que tu peux prendre ce texte-là à partir du moment où il a ses propres informations d'encodage et le faire rentrer dans la plupart des moulinettes, si tu veux, à ergonomie. Mais pour ça, il a fallu, et ça a été une part considérable du projet, qu'on le mette à un format standard, codifié, universel.
Oui, pour achever de répondre à la question de la diversité des interfaces, elle est valable aussi pour l'imprimé. Ce n'est pas parce qu'on a un support commun que vous ne lisez pas de la même manière un poème d'Ornichard, que vous consultez une revue, que vous lisez un roman, ou ainsi de suite. Donc c'est la possibilité avec ce traitement informatique-là, c'est d'adapter le dispositif de lecture aux exigences du texte. Et donc là, la spécificité du texte devrait exiger chaque fois un dispositif différent. Mais c'est restreint, comme je tentais de m'expliquer, à certains textes qui peuvent véritablement tirer un bénéfice. Je ne suis pas sûr que ce serait pertinent pour Proust, par exemple. Et là, c'est parce que, effectivement, on a un texte qui a eu un rapport tout à fait particulier à l'imprimé.
Alors, attendez, pas tous en même temps. Il y a Henri, Étienne, après on verra. Henri, rapidement.
J'avais une question à poser à M. Bourquier, puis la réflexion de Michel Bernard me perturbe. Je ne comprends pas son besoin de savoir tout sans avoir jamais rien appris.
Oui, comme ça.
Quand on prend un dictionnaire, il y a les implicites sur le contenu du dictionnaire et sur la manière de le manipuler, parce qu'il y a quelques implicites. Tu y as répondu d'ailleurs par avance, toi-même, Michel, en faisant dans ton édition de l'Autréamont un fac. Je suppose que c'est ça, en fait, qui doit nous apprendre à nous servir convenablement. Alors peut-être qu'il n'y en a-t-il pas là, mais vous allez le mettre, ça va se faire.
Voilà, oui, pour ce site exploratoire.
Je voulais dire sur votre intervention, que j'ai beaucoup apprécié, l'habileté avec laquelle vous présentiez les choses. Alors vous avez lancé plusieurs fois quelques appels du pied et du côté de l'actualisation. Alors, actualisation au revu du sens. Bon, je veux dire que, entre les deux termes, il y a la différence de Bergson à, parce que pour moi, reviviscence, ça sonne bergsonien, à la pragmatique d'aujourd'hui. Voilà. Cela étant, on a, je crois, le même objectif, qui est de rendre accessible d'activer la lecture. Je pense pas qu'il y ait d'opposition, le même souci, de rendre accessible, de mettre sous la main, de rendre universellement...
Et le souci de répondre à la question, pourquoi est-ce que ce serait mieux que l'imprimé ?
Voilà.
Là, c'est une tentative. Dans un cas particulier, je ne saurais pas répondre à tout genre de texte, je ne saurais pas que proposer.
Les derniers mots de ce que je veux dire ce matin, c'est qu'il y a une valeur ajoutée dans ce que nous faisons, qui n'est pas simplement est-ce qu'on s'est amusé à lire beaucoup de choses dans ce texte, même, je suppose que vous connaissez les 10 tomes par cœur. Mais il y a un plus, c'est que c'est la manière de rendre accessible sans pour autant passer par les morceaux choisis. Alors, justement, la version papier que vous proposez d'anthologie me paraît quand même une petite régression par rapport à l'ambition.
Vous avez mis, vous avez souligné l'idée d'habileté, effectivement, et au moment de préparer cette intervention, je me suis rendu compte que l'existence d'une version papier n'entrait pas forcément dans la logique de développement, mais c'est une occasion éditoriale aussi, et le fait quand même, par contre, dans l'idée d'un appel, quoi. C'est pour ça que j'ai posé la question ce matin aussi, de l'invitation à l'égard d'un public qui, à l'heure actuelle encore, ne va pas tomber spontanément sur un site. Et peut-être que l'idée d'un livre associé à un site apparaîtra totalement saugrenue dans une dizaine d'années.
Le point commun, disons, entre ce que nous avons, les deux objets, tout aussi différents et variés qu'ils soient, c'est que nous avons le sentiment qu'ils ne sont pas assez connus, ou qu'il n'y a pas une connaissance suffisante du public pour aller le chercher. On cherche une manière de le séduire autrement.
Bien, alors rapidement pour qu'on fasse la pause, deux minutes, Étienne.
Et c'est la même. Quel critère avez-vous, quel critère avez-vous retenu pour faire ce GF ?
Au niveau de la sélection textuelle ?
Oui, c'est 5%.
Une page sur 10.
Ah, le caractère à la fois représentatif et attrayant.
Non, ça c'est une réponse. Représentatif, si vous le maintenez, ça veut dire que c'est 20 fois la même histoire que Madame de Scudéry raconte, ce qui est impossible. Je veux dire que c'est civiliste, il y a un public scolaire, et j'aurais aimé que vous précisiez les critères, parce que ça nous intéresse directement, nous les profs.
Oui, mais je saisis mal votre question quand même.
Moi, vous choisissez les 5% de morceaux choisis.
Ouais, donc je ne saisis pas en quoi la réponse que je vous ai adressée vous paraît non pertinente.
Ceux qui font des abrégés ont la même question. Il y a la question des soudures, de la continuité. Est-ce que vous avez privilégié la variété ? Est-ce que les gens aiment que ça change ? Ou des personnages qui sont des personnages principaux ?
Alors,
événements où on va quand même aller plus loin en amour, parce qu'en fait c'est une histoire d'amour courtois qu'on finit pas de morceaux, ça c'est
Alors je pense vous donner la précision en décrivant le contenu du volume. Il y a trois membres textuels. Il y a d'abord une reconstitution de l'histoire cadre générale à partir de divers morceaux, qui est conçu dans un esprit de représentativité, c'est-à-dire les épisodes les plus frappants, les plus connus, les plus représentatifs. Et ensuite, on a pris deux histoires intercalées, qui sont l'une et l'autre assez distinctes. L'histoire de Sappho, aussi parce que c'est un best-seller, on dit, mais des gender studies, et l'histoire des amants infortunés, parce que globalement, elle ressortit à l'esthétique des salons en proposant quatre petites histoires distinctes d'amants malheureux qui chacun cherche à prouver qu'ils sont les plus malheureux. Donc là, je maintiens l'idée représentative et à la fois attrayante.
Et cohérence.
Et oui, et cohérence. Et d'ailleurs, si on observe, c'était les exigences de l'éditeur, et nous nous sommes efforcés de les satisfaire, apparemment.
C'est important, parce que là, ça risque de marcher Les jeunes ont besoin de ça.
Oui.
Pour ne pas accouder dans son devenir immédiateté, utilitaire, le tout de suite. Et faire toujours distance à la littérature, c'est ça.
Merci. Je vous remercie.
Bien, Étienne, et puis ce sera la dernière question pour qu'on aille en
oui,
pause.
Elle se rattache un peu à ce que disait Michel Bernard tout à l'heure, la difficulté de maîtriser toutes ces interrogations. On avait pensé que Internet était la solution par rapport à la tour de Babel qu'on représentait le CD-ROM. Le CD-ROM, effectivement, il faut apprendre à chaque fois. Mais même sur Internet aussi, il faut apprendre à chaque fois comment manipuler. Bien sûr, c'est toujours la souris qui appuie sur des liens, mais c'est quand même à chaque fois une logique qu'il faut apprendre. Alors, ce que je voulais dire, m'étant trouvé moi-même il y a 10 ans devant le même problème, à la fois pour Balzac et pour Abel, j'avais le choix entre plusieurs techniques, et ma question est technique. Est-ce que c'est du pur HTML que vous avez fourni, ou est-ce que c'est une base du type CGI, c'est-à-dire qu'on ne peut interroger que si le serveur qui est au loin déclenche son propre programme. Alors, Bernard disait, est-ce que c'est interrogeable par Google? Dans un cas, oui, dans l'autre, non. Si c'est du pur HTML, Google prend tout. Il pompe tout et ça rentre dans sa base de données. Et c'est le cas, par exemple, pour Balzac. J'ai retrouvé tout ce qui se trouve dans tout ce qu'on a mis avec le professeur Kiryu dans le site Balzac se trouve sur Google. Et par contre, sur Rabelais, rien. Pourquoi ? Parce que le Rabelais, c'est un CGI. Et Google a la porte fermée. Il n'entre pas dans les CGI. Ma question, de quel type est votre application ? Ou bien, est-ce que c'est du JavaScript, du Java ou autre chose encore ?
Je vous invite à la poser, Alexandre Geffen.
Google, c'est pas forcément prendre des CGI, c'est prendre des pages dynamiques. Google n'indexe pas un certain nombre de pages dynamiques lorsque on n'a pas pensé à la solution en avance. Là, il s'agit de pages dynamiques, mais de pages dynamiques indexables par Google, qui sont indexées par Google. Si on va rentrer dans le détail de la structure technique, mais ça serait un peu long, mais en tout cas, c'est à la fois dynamique et indexé par Google.
Au niveau de la question relative à l'option CGI ou pure HTML,
en fait, le CGI génère l'HTML, c'est-à-dire que ce pas des pages statiques, c'est pas des pages HTML statiques. Là.
Le mot dynamique différencie.
Une dernière, allez-y.
Alors, je voulais rebondir justement sur l'idée d'unité de l'interface. Je sais qu'actuellement, il y a une démarche à la fois d'un côté par Google et de l'autre côté, je crois, par la BNF, de numérisation systématique d'œuvres. Alors, comment vous inscrivez-vous par rapport à cette démarche? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose. Est-ce que c'est une démarche qui est incompatible avec la vôtre? Est-ce que c'est une démarche sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour laisser toute la partie juste pour aller vers une normalisation et vous apporter votre valeur ajoutée qui est le décryptage? Comment est-ce que vous pouvez vous appuyer sur ça?
Ce qui me paraît la logique de l'entreprise Google, c'est une mise à disposition simple. Et nous sommes là plutôt dans une logique d'instrument de lecture facilité. Et donc l'un peut éventuellement s'appuyer sur l'autre. Là, je ne vais pas vous répondre plus précisément sur le plan technique, mais en tout cas, c'est pas du tout les mêmes objectifs, quoi. Si on veut Google ou Gallica ou un des sites comme ABU ou d'autres qu'on évoquait ce matin, ce n'est simple mise à disposition. Hein. Nous prétendons à aller beaucoup plus loin que ça.
J'entends bien sûr, Google fait une mise à disposition pure et simple de l'œuvre, mais est-ce qu'il n'y a pas des possibilités de rapprochement entre des universitaires qui ont des travaux à présenter sur des œuvres et la numérisation de l'œuvre et la mise à disposition simple de l'œuvre qui est déjà faite et qui est le travail titanesque de numérisation et de mise à disposition et d'indexation par Google et sur lequel peuvent venir se greffer la valeur ajoutée plutôt qu'avoir un site pour chaque œuvre.
Oui, bien sûr. Le problème, c'est que Google, la numérisation de texte est uniquement à l'état de projet. On ne sait absolument pas quel protocole vont-ils utiliser. Quant à la BNF, on en est encore au niveau de la décision politique. Donc simplement, on a pris parmi tous les standards de numérisation le plus utilisé et le plus disponible, qui était le TUI. Ensuite, advienne ce que pourra. Dans la mesure où on ne sait pas ce que... La seule chose, c'est que on a un garde-fou qui est contre l'obsolescence, qui est le fait qu'on utilise un standard public, connu, etc., qui n'est pas un standard fermé, et le standard majoritaire, c'est tout. Mais on ne peut pas...
Bien, écoutez, on va faire une pause. On se retrouve à 5h pour la dernière communication de la journée.